Vous écoutez
RMC.
Rafael Nadal a posté une vidéo de 21 secondes où il frappe gaiement dans la balle dans son académie à Majorque. Mais la vérité, comme il le dit lui-même dans son message, c'est que son corps ne l'autorise pas à revenir sur le circuit.
J'espère que ce n'est pas une blessure importante et j'espère avoir la chance de m'entraîner cette semaine et de jouer Melbourne. Mais honnêtement, je ne suis sûr de rien à 100% pour l'instant.
À un moment, il ne pourra plus refuser l'obstacle, sinon ce sera la retraite. Mais on imagine mal Rafael Nadal ne pas fouler le central Philippe Chatrier une dernière fois.
RMC Bartoli à la folie.
Eh oui, on l'imagine mal, mais c'est une possibilité. Eric Salio est avec nous en direct de Monte Carlo. Salut Eric.
Bonsoir à tous.
Salut Eric.
Salut Marion.
Alors,
c'était bien la plage ou pas?
Quelle plage? Je sais pas de quoi tu parles. Tu sais que ça joue là, je suis dans ma cabine.
Mais je sais que ça joue, mais je sais que je suis l'escort, tu sais.
Commence à faire froid quand même là.
Oui, mais une petite laine, tout va bien se passer.
Je vais changer mon maillot de bain quand même, parce qu'il a.
Bon, le tournoi a débuté aujourd'hui sans Rafael Nadal, qui a dû jeter l'éponge jeudi. L'Espagnol a annoncé son forfait sur les réseaux sociaux. Et je vous lis son message, assez édifiant tout de même. Hein, et Marion, je voudrais avoir ton avis. Je traverse une période difficile sur le plan sportif. Mon corps ne me permet tout simplement pas de jouer, bien que je continue à travailler et à faire de mon mieux chaque jour avec l'illusion de pouvoir participer à des tournois qui ont été très important pour moi. La réalité est que je ne peux pas le faire aujourd'hui. Marion, quand on sait que dans un mois et demi, c'est Roland-Garros, il y a de quoi avoir peur quand même.
Alors, j'ai discuté avec l'entourage de Rafael Nadal. Effectivement, pour eux, l'essentiel, c'est Roland-Garros. Donc, ils veulent vraiment essayer que Rafa soit prêt pour Roland-Garros. Pas le tournoi olympique, mais le tournoi du Grand Chelem à Roland-Garros, dont des matchs en 5-7, des matchs qui vont être éprouvants physiquement. Et ils ont conscience que s'il y a des petites blessures et des petits bobos auparavant qui sont présents, ce n'est pas en jouant des tournois que ça va s'améliorer. Donc, ils essaient vraiment de préparer Rafa pour arriver à être capable de tenir sur la longueur des matchs en 5-7 difficiles sur la terre battue avec des jeunes joueurs qui sont de plus en plus puissants, de plus en plus percutants et bien sûr des Alcaraz, des Sinner, Novak Djokovic qui va tenter de défendre son titre, donc avec une concurrence extrêmement élevée. Et Rafa a totalement conscience qu'il devra arriver à son maximum et à 100%. Donc, il ne veut pas prendre de risques auparavant. Je rappelle quand même les statistiques qu'il a sur terre battue parce que c'est quand même des chiffres qui sont juste hallucinants. Donc, il a remporté 4 tournois, plus de 10 fois sur terre battue. Monte Carlo, qui se déroule en ce moment, 11 fois. Barcelone, juste la semaine d'après, 12 fois. Rome, 10 fois. Et Roland-Garros, 14 fois. Donc, aujourd'hui, si effectivement qu'il soit un petit peu fatigué et qu'il ait quelques blessures, je pense que vu ce qu'il s'est imposé et infligé à son corps depuis tant d'années, c'est totalement logique. Mais encore une fois, pour en avoir discuté avec son entourage, je tiens à rassurer les fans de Rafael Nadal. Il compte bien s'aligner à Roland-Garros et c'est son objectif premier et principal de cette saison sur terre battue.
Ok, c'est une très bonne information que tu donnes ce soir aux auditeurs. C'est une stratégie, si je comprends bien. Voilà, il faut pas qu'il se crame.
Il faut ménager sa monture, exactement. Okay. Il faut essayer de prendre des décisions intelligentes pour arriver le mieux possible et encore une fois prêt à tenir des matchs sur la distance, sur la longueur. Les matchs en 5-7, c'est des matchs qui peuvent être très longs à Roland-Garros. On l'avait vu avec ce fameux match sur Zverev où malheureusement Alexander Zverev s'était bien évidemment arraché la cheville sur Confi Chatrier. On en était à 2-7, à plus de 3h, c'est ça, 3h30 il me semble Eric, dans des proportions absolument hallucinantes en termes de temps. Donc il faut que Rafael Nadal soit prêt physiquement à jouer ces matchs aussi longs.
Alors Eric, entre deux transats, tu as tout de même rencontré deux hommes qui souhaitent ardemment le retour de l'Espagnol.
Non mais je voudrais juste apporter une précision parce que Rafael Nadal était samedi soir à la finale de la Coupe du Roi à Séville. Il a été interrogé par la télé diffuseur et en fait oui, Marion a raison, il a des petits soucis et là c'est les abdos toujours, hein. Il n'arrive pas à se débarrasser de ça, donc effectivement, ils vont essayer de gagner du temps. Il n'y a pas d'urgence encore, c'est vrai, mais moi je me demande quand même, enfin Marion, est-ce qu'il peut se présenter entre guillemets à poil à Roland, c'est-à-dire sans avoir joué le moins de tournois? Ça c'est.
S'il y a une surface sur laquelle il peut se permettre et un cours sur lequel il peut se permettre, c'est bien le Confi Chatrier à Roland-Garros.
Bon, sur
n'importe quel autre endroit, je t'aurais dit, ça aurait été très très compliqué. Mais là, ce cours, c'est quand même chez lui.
Ouais.
C'est quand même sa maison.
C'était le sujet de conversation quand je suis arrivé aujourd'hui à Monte Carlo. Et Novak Djokovic a évidemment été interrogé là-dessus. Écoutez sa réponse, je pense que ça résume très bien le sentiment général.
C'est tous les jours importants pour notre sport, pour avoir Rafa sur les courts. Particulièrement cette année, qu'il allait dire avant, que peut-être c'est la dernière chance, dernière Roland-Garros, dernière saison de son carrière. J'espère comment un fan de tennis qu'il peut revenir et à moins jouer sur son terre battue préférée à Roland Garros.
Et voilà pour la réaction de Novak Djokovic en français. Marion, c'est vrai que toi qui connais bien Novak Djokovic, c'est pas juste pour faire plaisir. Il le pense vraiment. Le tennis absolument. A besoin de Rafa Nadal et a besoin de ce dernier Roland Garros.
Totalement, et puis il y a énormément de respect entre ces deux joueurs-là, même comme il y avait autant de respect aussi avec Roger Federer. Ces trois joueurs se sont nourris de cette concurrence, c'était une concurrence saine. Ils se sont tirés vers le haut les uns et les autres pour repousser de plus en plus loin leurs limites en termes de ce qu'ils étaient capables de délivrer comme performance sur le terrain. Alors pour Novak Djokovic, il vient de battre un nouveau record puisque c'est désormais le plus vieux joueur numéro 1 mondial de l'histoire de l'ATP. Il détrône d'ailleurs Roger Federer puisqu'il a désormais 36 ans et 321 jours. Il est un nouveau numéro 1 mondial. Enfin, il reste numéro 1 mondial 13 ans après sa première accession à la première place du classement ATP. Donc ça vous montre aussi la longévité qu'a été capable d'avoir Novak Djokovic. Mais ces trois-là ont tellement une histoire commune que bien évidemment, aussi pour leur propre motivation, ils ont besoin d'avoir leur concurrent historique qui soit présent dans les tournois. C'est ça qui représente le sel de la compétition pour eux, qui représente les matchs avec le plus d'enjeux. Donc bien sûr que Novak a envie totalement de voir Rafa sur les terrains, à Roland-Garros bien sûr, et puis il espère aussi sur d'autres tournois.
Oui, sur d'autres tournois. Il y en a un qui est directement concerné par le retour de Rafael Nadal, c'est Carlos Alcaraz, que tu as rencontré aussi, Eric.
Oui, tu as raison de le dire parce que ça fait quelques mois qu'ils en parlent.
Et oui, les Jeux Olympiques en
jouer,
double.
Voilà, ils aimeraient bien jouer le double à Paris, donc aux Jeux Olympiques. Et donc, Carlos Alcaraz s'est exprimé là-dessus. Mais bon, il a pas trop d'infos. C'est aussi ce qui ressort de l'interview.
Ça fait quelque temps que je ne l'ai pas croisé sur le circuit. En tant qu'amoureux du tennis, c'est évidemment dommage qu'il ne soit pas présent à Monte-Carlo. J'espère vraiment jouer le double aux Jeux Olympiques à ses côtés. Ce serait un rêve. D'ici 4 mois, il peut se passer beaucoup de choses.
Marion, est-ce qu'il y a une éventualité, à un moment donné, ou au début du mois de mai, Rafael Nadal se dit que Roland-Garros, c'est encore trop juste et qu'il privilégie à fond les JO ou non, tu n'y crois pas à cette option?
Franchement, j'aurais du mal à y croire et j'aurais du mal à croire que Rafa pourrait ne pas être prêt pour Roland-Garros et être prêt pour les JO. Ça me semble très compliqué. Je pense qu'il veut vraiment, encore une fois, lorsque vous avez remporté un tournoi à 14 reprises, et comme l'a dit Novak Djokovic, et je suis complètement alignée avec ses déclarations, je pense qu'il sait que c'est quasiment son dernier Roland-Garros. Il veut y participer, Rafa, il va absolument tout faire pour y participer, et je pense que ça sera un crève-cœur pour tout le monde, pour la Fédération Française de Tennis, pour Amélie Mauresmo, la directrice du tournoi, pour tous les fans de Rafael Nadal, pour tous les fans de tennis tout simplement, de ne pas voir Rafa fouler les cours cette année à Roland-Garros. Et j'aurais du mal du coup à me projeter sur les Jeux Olympiques, mais pour moi on a tellement vibré avec Rafa et ses exploits et ses matchs à Roland-Garros qu'on a envie de le revoir au moins une dernière fois, comme un dernier adieu pour lui rendre hommage aussi pour tout ce qu'il a fait. Donc j'ai pas envie d'envisager le fait qu'il ne soit pas présent, même si effectivement ça reste toujours une partie de l'équation qu'il faut prendre en compte. Mais pour tous les fans de tennis que nous sommes, on a envie de le voir jouer sur les terrains de Roland-Garros, c'est certain, que ce soit pour le tournoi du Grand Chelem ou pour les Jeux Olympiques.
Bon, rapidement, Eric, toi qui es en direct de Monte-Carlo, on entend justement la foule derrière toi. Eric, parlons des présents. Novak Djokovic qui fait son retour quelque part. C'est son premier tournoi depuis sa séparation avec Goran Ivazinevic, son entraîneur. Comment tu as senti Novak Djokovic, lui qui est resté sur quelques performances en demi-teinte?
Ça fait longtemps qu'il n'a pas brillé sur le rocher. Bon, il aura un premier tour contre le vainqueur de Safiulin Mounar. Il a dit qu'il espérait pas grand-chose. Bon, lui aussi, il pense qu'à Roland et au jeu, et Wimbledon au milieu. Non, la vraie star ici, c'est Sinner. Non, il y a la proximité de la frontière, mais c'est hallucinant. Il peut plus se déplacer sans 25 gardes du corps. Hein. Yannick Sinner, c'est assez incroyable. Donc ça va être un tournoi passionnant parce qu'on peut avoir une demi-finale à Alcaraz Djokovic, pourquoi pas. Et puis Sinner Medvedev et vous ou Gaël Monfils, puisque Gaël Monfils peut très bien affronter Dany Medvedev dès le deuxième tour. Et demain, on aura 4 Français sur les cours, notamment le derby Fils Manarino.
Eh bien, on a hâte de voir ça et évidemment.
Alors,
tu vas nous compter tout ça
stat.
Sur RMC.
Oui, une dernière micro-stat. Donc Novak Djokovic a déjà remporté 40 Master 1000, mais s'il gagne ce Monte Carlo, il aura gagné tous les Master 1000 au moins 3 fois.
Incroyable, ouais.
Ça n'arrivera pas.
Comme ça. Comme ça au moins. S'il veut mettre la concurrence loin, là, au moins, on sera assuré.
Rapidement également, avant d'aller à Toulouse, car Wilfried Templier nous attend pour nous raconter la victoire du Stade Toulousain en Champions Cup. Sur Novak Djokovic, je sais que tu es aussi en lien assez étroit avec l'entourage. Tu les as eus ces derniers jours. Sa séparation avec son entraîneur, là, c'est quelque chose qui se passe sans souci.
Ça se passe sans souci, effectivement. Nenad Zimonjić qui a intégré sa structure et quelqu'un qui connaît très bien Novak depuis très longtemps puisqu'il était avec lui en Coupe Davis. Moi, lorsque j'ai joué les légendes du tournoi de Wimbledon avec Nenad en tant que partenaire de double mix, il était aussi dans la boxe de Novak pendant toute la quinzaine. L'année où Novak a remporté le tournoi en battant Nick Kyrgios en finale, il y avait pas mal de stress, pas mal de difficultés à gérer et Novak avait fait appel à Nenad Zimonjić en plus de Goran Ivanišević pour arriver justement à faire retomber un petit peu la pression, à gérer ses moments de tension qui était important pour lui. Donc il connaît très bien ce joueur-entraîneur qui a été à ses côtés déjà de nombreuses reprises. C'est quelqu'un, Nenad Zimonjić, qui a une grande connaissance du tennis, qui est extrêmement calme, qui apporte beaucoup de sérénité. Et comme l'a dit Goran Ivanišević, qui a donné un long article aussi dans un journal serbe, il y avait une espèce de lassitude qui s'était installée pour les deux. Il y avait une lassitude pour Novak d'être effectivement tous les jours au quotidien sur le terrain avec Goran, et Goran aussi avait fini par se lasser de cette situation, ce qui est compréhensible encore une fois quand on est au plus haut niveau depuis 2018, qu'on a atteint autant d'objectifs. Il y a beaucoup de stress, beaucoup de tensions à gérer et parfois il y a une limite pour chacun, mais en tout cas ils sont séparés en de très très bons termes. Ils restent bien évidemment amis et je pense que cette relation avec Nenad Zimonjić va durer parce qu'encore une fois elle a été capable d'apporter déjà beaucoup de choses à Novak dans les coulisses.
Merci Eric d'avoir été avec nous en direct. Merci de Monte Carlo. On te retrouve tout au long de la semaine et toutes les informations se retrouveront sur rmcsport.fr.
Merci Eric, passe une bonne semaine.
Salut Mario, à bientôt.
Allez tout de suite, le Stade Toulousain.
Premier essai pour le Stade Toulousain, 3 pénalités de suite contre le Racing. Les Toulousains ont vent contre, donc ils n'ont pas tenté la pénalité. Ils ont été deux fois en touche. Et sur la dernière prise de balle d'Alexandre Roumat, c'est tout le pack qui s'est affalé dans l'embuté. Le deuxième essai Toulousain, signé Baptiste Bell. Le quatrième essai Toulousain, l'efficacité, le pragmatisme. Quand les Toulousains viennent dans les 22 mètres du Racing, ça fait mal. Dernier essai, le cinquième, signé Alexandre Roumat sur une tentative vaine de relance du Racing dans ses 22 mètres. Ce Racing-là, sans Chat, sans Tarit, sans Gibert, sans Le Garec, n'était pas de taille pour lutter avec le Stade Toulousain qui se qualifie donc pour les quarts de finale. On les tient, ces quarts de finale.
RMC, Bartoli Time.
Eh oui, ils seront donc trois en quart de finale. Trois clubs français qui poursuivent leur chemin en Champions Cup. Hier, l'UBB et La Rochelle ont décroché leur billet. Cet après-midi, vous l'avez entendu, le Stade Toulousain n'a laissé aucune chance au Racing 92, victoire 31-7. Les Toulousains qui recevront Exeter le week-end prochain pour une place en demi. Notre commentateur, notre spécialiste rugby est avec nous. Bonsoir Wilfried.
Salut tout le monde.
Wilfried Templier en direct de
Salut
Toulouse.
Wilfried,
on s'attendait à une victoire. C'était un moment aussi important pour le Stade Toulousain avec Romain Ntamack, Antoine Dupont.
Le retour de la charnière.
Qui rejoue ensemble.
Oui, c'était la première titularisation depuis le mois d'août, ce 12 août, maudit 12 août où Romain Ntamack s'est blessé. Ils n'avaient pas joué ensemble depuis ce moment-là et en club depuis la finale du top 14. Donc c'était. Tu veux qu'on écoute Antoine Dupont si vous voulez. On écoute Antoine Dupont tout de suite sur ces retrouvailles, cette titularisation avec Romain Ntamack.
Plutôt bien, comme je disais, pas l'impression qu'on ne se soit pas vu depuis des mois. Ce qui est plutôt bon signe, mais après encore une fois, quand on a un paquet d'avant qui est dominant comme ça, c'est toujours plus facile pour la charnière. Mais je pense que Romain a bien préparé son retour, il a pu s'entraîner pas mal avec l'équipe, même si moi j'étais pas encore là. Mais pour reprendre tous ses repères et retrouver son jeu qu'on lui connaît, il fait une prestation très complète, très solide aujourd'hui comme on lui connaît. On espère que ça va continuer.
Et ça s'est bien passé pour le Stade Toulousain, le score en atteste, hein, 31-7. Bon, le Stade Toulousain s'est quand même qualifié premier de toutes les poules, 20-20, c'est-à-dire 4 matchs, 4 victoires bonifiées, 20 points possibles sur les 20 disponibles, alors que le Racing n'avait eu qu'une victoire. Et les Toulousains étaient un peu, comment dire, cette semaine un peu chafouinés, si je peux me permettre ainsi, messieurs, dames. Ouais, de retrouver une équipe aussi forte, entre guillemets, que le Racing, alors qu'ils avaient donné beaucoup, ils avaient été chercher beaucoup dans ces poules de Coupe d'Europe, mais pour retrouver le 16e, le Racing n'avait gagné qu'un match et s'est qualifié en dernière position. Donc il craignait un petit peu de retrouver une équipe française comme le Racing, mais je pense que le Racing a peut-être perdu le match une semaine avant quand il a perdu sa charnière blessée, Le Garec et Gibert face à Clermont, parce que ça a été très dur pour Clovis Lebaye et Tristan Teder. Et puis les Toulousains ont fait preuve de comme je disais dans le commentaire, pragmatique. Tous les temps forts, ils les ont concrétisés. Ils ont eu le vent un vent fort justement face à eux en première mi-temps, et à la pause ils menaient 10-0. On se disait que c'était trop dur pour ce Racing là qui a encaissé quand même 5 essais, Marion. Ouais, donc c'est logique, c'est implacable, j'ai envie de dire, pour le Stade Toulousain face à ce Racing là.
Moi j'aimerais revenir avec toi, Wilfried, sur deux éléments. La première, c'est qu'effectivement, les déclarations de Romain Tamac, plein de sagesse, où il a déclaré à la fin de son match qu'il y avait des périodes où il sentait quand même plus essoufflé, où il avait un petit peu du mal à repartir au combat, ce qui est normal après 8 mois de blessure. Même si on fait des entraînements à haute intensité, le stress généré dans le match va toujours avoir un impact sur le rythme cardiaque et donc les efforts répétés. Donc j'aimerais avoir ton avis sur son niveau de jeu global. Et puis aussi, les deux formations s'étaient affrontées en top 14 de 28 janvier. Ça avait été un score plus serré, 27-20. Oui. Là, en quart de finale, ils vont accueillir Exeter. Ouais. Comment tu le sens sur ce match? Parce qu'Antoine Dupont a déclaré que ça allait être un match très très compliqué contre Exeter. Toi, tu le vois comment?
Alors, concernant Romain Tamac, il a fait un bon match, on va dire. Et il s'est notamment rassuré sur une chose qui est des plus basiques au rugby, c'est la défense. Il a bien défendu, donc pour les sensations, pour le genou. Et Hugo Mola nous disait par contre qu'il était très content de son match et qu'il a vu dès la 50e minute que Ntamak regardait vers le banc. Donc c'est qu'il manquait un petit peu de gasoline.
Un petit peu. Oui, voilà. C'est ça,
il a joué une vingtaine de minutes contre Pau la semaine dernière. Là, c'est un match de Champions Cup quand même, de phase finale. C'est beaucoup plus dur. Donc, petit à petit, ça va aller mieux, même s'il faudra quand même faire attention parce que c'est des blessures qui sont pas anodines. Concernant le Stade Toulousain, qui avait gagné de peu, mais qui avait gagné au Racing, sauf que là, ils sont en mode Coupe d'Europe. Et quand en Champions Cup, quand ils se mettent en mode comme ça, ils le sont depuis le début de cette compétition. Didier Lacroix, le président, a dit l'été dernier, c'est un objectif. Ils l'ont pas gagné. Tu te rends compte, depuis 2021, ils l'ont pas gagné. Non, mais ça peut paraître beaucoup ici à Toulouse, ça paraît pas beaucoup dans les autres clubs. Donc, c'est une priorité. Donc, ils sont vraiment, et Hugo Mola l'a dit aussi après le match, ils ont très bien bossé cette semaine, ils se sont mis en mode phase finale et ça va continuer parce que vous savez qu'on enchaîne, Jean-Christophe, tu l'as dit, les quarts de finale le week-end prochain et donc ce sera Exeter. C'était une équipe qui a été championne d'Europe contre le Racing justement il y a quelques années, en 2020, au moment du Covid, qui avait battu Toulouse en demi-finale, mais qui a perdu beaucoup de joueurs. Et qui est une équipe qui a été en reconstruction, qui a formé beaucoup de joueurs. Donc c'est un ton en dessous de ce qu'ils étaient. Je pense que c'est faisable, normalement, pour ce Stade Toulousain-là, qu'il y aura des affrontements entre Leinster et La Rochelle, le remake des deux dernières finales samedi. Mais c'est de l'autre côté du tableau. C'est vrai que Toulouse pourrait retrouver, si l'UBB bat les Harlequins, les Anglais aussi samedi, pourrait retrouver l'UBB en demi-finale. Et a quand même les faveurs du pronostic dans cette Coupe d'Europe de par l'expérience, la culture du club dans cette compétition, même si de l'autre côté, que ce soit La Rochelle ou Leinster, si ça arrive en finale, ça ferait aussi ça aurait de la gueule, si vous permettez.
Exactement.
D'avoir ça en finale.
Et on a hâte forcément d'être le week-end prochain avec ces quarts de finale de la Champions Cup.
Juste les horaires, l'UBB Harlequins samedi 16h, Leinster La Rochelle samedi 18h30 et Toulouse Exeter dimanche 16h.
Tous ces matchs à suivre évidemment sur RMC avec pas les trois matchs, hein. Wilfried Templier toujours en commentaire. Merci beaucoup Wilfried et à très vite sur RMC.